Et puis il y a ceux qu'on voit plus régulièrement aussi, voilà. On a parlé de tempête, hein, on a parlé de moments peut-être difficiles. Alors c'est vrai que nos vies globalement, sur le plan matériel en tout cas, sont en général à peu près tranquilles pour la plupart d'entre nous, mais il peut y avoir des tempêtes intérieures qui nous assaillent. On va lire un texte et donner quelques commentaires sur un texte dans l'évangile de Matthieu qui situe vers la fin des pérégrinations de Jésus sur la terre, vers un peu la fin de son ministère. On s'approche d'un moment difficile et je pense que Jésus et la troupe qui l'accompagne étaient dans ces situations-là d'inquiétude sur l'avenir. Hein. On a chanté plusieurs chants qui nous disent que notre avenir il est entre les mains de Dieu et parfois c'est compliqué pour nous de nous saisir de ces vérités-là quand on traverse des périodes où on voit pas il y a un brouillard et puis on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Alors je vous invite à lire avec moi dans Matthieu chapitre 20 verset. Je ne peux pas baisser un tout petit peu, j'ai l'impression que ça me résonne dans la tête, ça. Je parle assez fort, hein, ils vont m'entendre. Vous m'entendez là-bas au bout? Oui, bon, c'est bien. Matthieu 20, verset 17. Sur le point de monter à Jérusalem, donc c'est bien tout à fait la fin des voyages de Jésus sur la terre, Jésus prit à part les 12 et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, se prosterna pour lui faire une demande. « Que veux-tu ? » lui dit-il. « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Mais vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?»« Oui, oui, nous le pouvons, » dirent-ils. Et il leur répondit, « C'est vrai, vous boirez cette coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ce texte est bien connu, et dans les commentaires, vous allez retrouver des choses que vous avez forcément déjà entendu, c'est pas très grave. Quelques éléments de contexte qui vont nous être utiles dans les commentaires. Juste avant ce récit, cet épisode, Matthieu place la parabole des ouvriers de la 11e heure. Vous savez, j'ai prêché sur ce texte, c'était l'année dernière, je ne sais plus exactement quand. Elle raconte cette histoire d'un maître infatigable qui, à toute heure du jour, continue à aller chercher des gens et à leur proposer de venir travailler dans sa vigne. Et plus le temps passe, plus il recrute des gens qui sont jugés inemployables. Et à la fin de la journée, ils reçoivent tous le même salaire, le salaire d'une journée de travail. Et la conclusion de la parabole, c'est « Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » C'est Matthieu 20, verset 16. Et puis si on va encore un tout petit peu avant, Jésus rencontre un jeune homme, il nous a dit que c'est un jeune homme riche, qui manifestement est empêché dans sa possibilité d'avancer avec Jésus, et les disciples du coup, mais qui donc peut être sauvé? Et Jésus termine l'échange par la même phrase, c'est au chapitre 19, verset 30, « Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers. » Et dans cet échange, avec le jeune homme riche et tout ce qui se passe avec les disciples dans la conversation, Jésus a auparavant fait quand même cette révélation à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Voilà un petit peu le contexte général. Et vous avez remarqué que notre récit d'aujourd'hui se termine aussi par une phrase un peu semblable aux deux premières. « Quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et donc on est dans ce contexte d'échange où Jésus met l'accent sur la place de chacun. Et c'est dans ce contexte qu'ils vont vers Jérusalem. Et Jésus prend ses disciples à part pour les avertir de ce qui est devant eux. Ce n'est pas une balade de santé, ils ne vont pas pour une conférence intéressante. Il les prend à part et leur révèle les difficultés qui sont devant eux. Et voilà qu'arrive cette question étonnante de Madame Zébédée. Je l'appelle comme ça parce qu'on dit toujours la mère des fils de Zébédée. Donc on va l'appeler Madame Zébédée, je ne sais pas si c'est... Je crois que l'évangile de Marc semble dire qu'elle s'appelait Salomé, en tout cas, puisque dans un texte dans Marc au chapitre 10, il est question d'un certain nombre de personnes et Salomé, et par comparaison, c'est comme ça qu'elle devait se prénommer. Donc Salomé Zébédée, puisque c'est elle, vient voir Jésus. Elle lui pose cette question étonnante. Ordonne que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à droite, l'un à gauche. Alors, première question, mais que fait-elle là, cette femme? Autour de Jésus, c'était quand même plutôt des hommes qui étaient là, hein, dont on parle dans l'Évangile. Comme ça, hein, c'était à cette époque, hein, ça a bien changé depuis. Bon, sans commentaire, on arrête là sur ce sujet. Alors, est-ce que c'est une mère poule qui accompagne ses deux fils, qui ne peut pas les lâcher et qui va continuer à être avec eux? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est intéressé, qui se dit « je ne reste pas trop loin parce que ça peut être utile » Ou plus vraisemblablement, cette femme qu'on pointerait volontiers du doigt dans ce récit, est-ce que ce n'est pas une de ces personnes qui ont cru en Jésus, qui l'ont suivi tout au long de son ministère? Parce qu'évidemment, on voit les 12 disciples, on voit des hommes qui sont autour de Jésus, la troupe des disciples officiels, mais il y a plein de gens qui étaient autour, qui suivaient. Et d'ailleurs, à la fin du même évangile, dans Matthieu, au chapitre 27, au moment de la crucifixion, verset 55, il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, celle-là même qui avait accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc ce n'est pas du tout une maman juive qui ne pouvait pas lâcher ses deux fils. C'est quelqu'un qui a suivi Jésus depuis le début. Donc quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui a entendu beaucoup de choses, qui a vu beaucoup d'événements, peut-être l'événement dont nous parlait Nadine tout à l'heure, la tempête qui s'est apaisée, elle l'a vu, elle n'était peut-être pas dans le bateau, mais on lui a raconté, elle l'a su. Alors cette question, elle étonne. Quelle audace, quelle prétention. Et pourtant, je vous ai lu un peu quelques éléments de contexte au chapitre 19, donc dans cette rencontre de Jésus. Pierre pose une question qui est un peu du même ordre. Mais quand le royaume sera venu, quelle sera notre place à nous? Demande Pierre. Et Jésus lui dit, vous serez appelés à juger les 12 tribus d'Israël, etc. Donc, on trouve ça choquant parce qu'on se dit, ils sont dans les situations quand même, Jésus vient de leur faire des révélations sur l'avenir, sur ce qui se profile. Et puis voilà que tout le monde pose des questions sur qu'est-ce qui va m'arriver à moi ou à mes fils, à nous-mêmes, qu'est-ce qui va nous arriver? Eux étaient sans doute dans une attente du type messianique, ils attendaient que Jésus prenne le pouvoir ou renverse certaines situations. Peut-être que ça nous étonne aussi dans ce chapitre, parce que c'est une femme qui ose poser cette question-là à Jésus. Il y a un peu de ça dans nos interrogations. Alors Jésus répond d'abord, on reviendra à la question de cette femme un peu plus loin. Jésus d'abord, il répond, il prend en compte, il ne dit pas « allez hop, dégage, je m'occupe pas de ce genre de choses », non. Il va prendre en compte la question, il va répondre, et il répond sans répondre, et il profite de la réponse pour de nouveau marteler ce message qu'il n'y ait pas de prééminence parmi vous. Ne soyez pas tout le temps en train de chercher à avoir la première place, à être au premier rang, à être assis à droite et à gauche du grand maître, ou à être sur des trônes qui jugent, ou etc. Et c'est ce message qu'on a vu là tout au long de ces chapitres de l'évangile de Matthieu, que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Sa réponse est en deux temps, en deux tableaux, avec les disciples. D'ailleurs, vous remarquez qu'il répond aux disciples, il ne répond pas à la mère. La première réponse, c'est, elle précise le chemin qu'il attend. Juste avant, il leur a dit, je vous annonce que nous allons à Jérusalem et que le Fils de l'homme va être mis à mort, etc. Et là, il précise et il dit à Jacques et Jean, attendez, vous ne vous rendez pas compte. Vous vous sentez capable de vivre ce que je vais vivre maintenant? Jacques et Jean, alors sont-ils prétentieux? Sont-ils simplement lucides? Je ne sais pas. Il dit, si, nous on est capables. Vous sentez-vous capable de boire la coupe que je vais boire? Et oui, on est capable de boire ça. Et Jésus leur dit, c'est vrai que vous allez pas mal souffrir. Effectivement, Jacques, si vous regardez dans les Actes au chapitre 12, assez rapidement, il a été mis à mort, un peu symboliquement, dans une des persécutions où Hérode voulait essayer d'éradiquer un peu cette secte juive qui commençait à prendre de la place. Donc Jacques, effectivement, a vécu quelque chose de difficile. Jean, autre chose, il a été exilé sur l'île de Patmos. Enfin, sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Et puis, quand Jésus continue sa réponse, il s'éloigne du cas particulier de Jacques et Jean, et il élargit le propos, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout le monde s'était indigné de la question de cette femme. Vous avez vu les 10 qui sont là, les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Donc dans les 10, hein, il y avait Matthieu, qui écrit ça quelques années après. Il en était, hein, celui qui... Voilà. Il y avait Pierre, qui n'était pas le dernier à essayer de se montrer et passer devant tout le monde. Il y avait Judas, sans doute, dont il nous est dit dans d'autres textes que il aimait bien la place qu'il avait parce qu'il détenait les cordons de la bourse et que ça donne un certain pouvoir. Voilà, il y avait des gens qui étaient tout à fait conscients, enfin qui vivaient ces choses-là. Et Jésus ramène ça à la vie de chacun d'entre nous. Ils sont là, ouais, quel culot, prétentieux, faillot, enfin je ne sais pas ce qu'ils pouvaient... On imagine un peu quelles étaient les réactions de toute cette équipe. Et Jésus leur dit, mais... nous sommes tous concernés par ce besoin de paraître, par ce désir de pouvoir, ce désir d'être le premier. Et le monde dans lequel nous sommes nous y pousse. Il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Non, c'est pas ça, il y a des phrases comme ça. Hein, et puis on parle tout le temps de monsieur Bernard Arnault qui est devenu le numéro 2 plus riche au monde. Je sais pas quoi, voilà. C'est ça qui est important aujourd'hui, mais ça date pas d'aujourd'hui. Dans les tout premiers récits que la Bible nous fait pour nous montrer la situation de l'homme, quand Adam et Ève ont cette conversation avec le serpent, vous avez déjà conversé avec un serpent, moi pas, mais en tout cas, chapitre 3 de la Genèse, le serpent leur dit, vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit défendu, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. C'est totalement inhérent à la nature humaine, et c'est un défaut que l'on retrouve partout, de vouloir être le premier. Et ce besoin, ce désir, nous avons le risque de le vivre partout dans nos vies, que ce soit ici dans l'église, pourquoi pas, dans notre famille, dans le travail, dans la société, dans la ville dans laquelle nous sommes, ce désir d'être les premiers. Et Jésus dit, non, on n'est pas là pour ça, on est là pour servir l'autre. Dans l'évangile de Luc, il y a le même épisode raconté un petit peu différemment, il n'y a pas la question de départ, mais la réponse que Jésus fait est du même ordre, c'est dans Luc 22. Il s'éleva une contestation, entre lequel d'entre eux devait être le plus grand. On est bien dans le même sujet. Jésus leur dit, les rois des nations les dominent, ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il ne doit pas en être de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, celui qui gouverne, comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans les épreuves, et je dispose du royaume pour vous. Simon, il s'adresse à Pierre. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois de me connaître. On a bien un peu le même récit, en tout cas ça semble relater le même épisode, il est traduit un peu différemment, mais... En particulier Pierre, qui était le premier des disciples, en tout cas qui est souvent montré comme cela, c'est celui à qui Jésus dit « Attention, tu es en position là, et Satan te vise particulièrement toi, parce que tu es plus en danger peut-être que d'autres, qui sont plus invisibles. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais, dit Jésus, j'ai prié pour toi. » Pour Pierre, qui était donc le chef des disciples, le risque était d'autant plus grand. Et je pense que c'est vraiment une réflexion qui doit nous animer tous, dans la société qui nous pousse à aller toujours plus loin et être toujours devant d'autres, que d'une part, le risque, plus on est haut, plus on risque de tomber fort, si j'ose dire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut refuser de remplir les rôles pour lesquels on est appelé. Voilà. Et en fonction des compétences qu'on a, en fonction de certains atouts, etc., chacun, tout le monde n'a pas la même place. Mais il faut être conscient que plus on est haut et plus on tombe. l'aventure de certains ministres récemment montre que il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Bon, je ne prononce pas sur la présomption d'innocence ou espèce de presse des caniveaux qui fait, bon, enfin, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, il y avait quelqu'un qui était assez haut placé et qui, en une semaine, est tombé bien bas. Voilà, que ce soit simplement une illustration. Et nous sommes donc appelés à être serviteurs des autres et à le faire peut-être par la parole, peut-être par des actes, peut-être par une attitude. Je ne parle pas très souvent de moi, mais il y a quelque chose qui me marque. Je dirigeais une structure dans la Meuse là, qui s'appelle le Centre Social d'Argonne. Et puis, bon, cette direction s'est arrêtée parce qu'il y a un autre directeur qui est arrivé, enfin, peu importe. Et donc, bon, il y a les pots de départ, enfin, etc., le truc où on dit au revoir à tous les gens avec qui on a travaillé. Et j'ai été très frappé, même ému, parce que je n'avais jamais parlé de ma foi. C'est-à-dire, quand on est directeur d'une boîte, on ne va pas forcément embêter les gens avec ça. C'est pas trop mon style non plus, donc voilà, chacun sa façon de faire. Et quand je suis parti, il y avait les personnes de la comptabilité qui avaient juste accroché 3 ballons dans mon bureau, au moment où je suis allé pour récupérer mes affaires, sur lesquels ils avaient écrit « Merci pour votre humanité ». Ça m'a énormément touché, parce que j'y ai vu quelque chose qui disait, bon, voilà, l'attitude que j'avais eue, même si j'avais jamais dit que j'étais chrétien, c'était pas la thématique, mais il semblerait que, et je veux dire ça en toute humilité, parce que j'ai pas d'éléments qui me disent, oui, c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé que, mais c'est ça qu'ils avaient retenu. C'est peut-être simplement un exemple pour dire, voilà comment on peut être serviteur des autres. Même si j'étais directeur, donc évidemment, j'avais certains pouvoirs sur ce qui se passait dans cette boutique, mais voilà ce que les gens ont retenu, être serviteur des autres. Mais on va revenir à l'histoire de cette femme. Ça, c'était, vous avez vu, le contexte général de tous ces chapitres, qu'il n'y a pas de prééminence parmi vous, vous êtes là pour être serviteur des autres. Mais je veux quand même revenir à cette femme et à cette foutue question qu'elle a posée, quand même. On a vu la réaction des disciples. Parlons d'elle maintenant. Est-elle si coupable que ça? On la pointe facilement du doigt. Et la réaction des disciples, quel scandale, machin. C'est ça le commentaire que l'on fait couramment. On a dit que c'était une femme qui avait suivi Jésus tout au long de sa vie, qui était encore là à la fin, à la croix, qui faisait partie des quelques-uns qui n'étaient pas loin de Jésus, qui étaient fidèlement dans la troupe. Elle vient d'entendre parler, Jésus, de ce qui va arriver. Jésus qui annonce ses souffrances et sa résurrection. Et peut-être que les disciples, eux, ils ont beaucoup entendu la souffrance et ils sont un peu désespérés de voir que leur maître, ça va mal se terminer. Mais elle a entendu la souffrance et la résurrection. Et j'ai trouvé un commentaire fait par un évêque du 5e siècle, Basile de Séleucie, sans doute quelque part entre l'Irak et la Turquie, je ne sais pas où exactement. Écoutez ce qu'il dit, et j'ai trouvé ça tout à fait intéressant. « Veux-tu voir la foi de cette femme ?» On parle donc de Madame Zébédée, Salomé Zébédée. Voilà. « Eh bien, considère le moment de sa requête. La croix était prête, la passion imminente. » La foule des ennemis déjà en place, le maître parle de sa mort, les disciples s'inquiètent. Avant même la passion, ils frémissent à la simple évocation de celle-ci. Ce qu'ils entendent, les frappes de stupeur, le trouble les possède. À ce moment même, cette mère se détache du groupe des apôtres, et voilà qu'elle demande le royaume. Elle réclame un trône pour ses fils. « Que dis-tu, femme? Tu entends parler de la croix et tu demandes un trône ?» Il s'agit de la passion, et toi tu désires le royaume? Laisse donc les disciples tout à leur crainte et à leur souci du danger. Mais d'où peut bien te venir de demander cette dignité? Qu'est-ce qui, dans ce qui vient d'être dit et fait, te porte à penser au royaume? Je vois, dit-elle, la passion, et je prévois aussi la résurrection. Je vois la croix plantée, mais je contemple aussi le ciel ouvert. Je regarde les clous, mais je vois aussi le trône. J'ai entendu le Seigneur lui-même dire « Vous siégerez vous aussi sur 12 trônes, je vois l'avenir avec les yeux de la foi. » Cette femme, dit toujours Basile de Séleucie, va jusqu'à devancer les paroles du larron sur la croix. Lui sur la croix, il dit « Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume » et il est sur la croix. Avant la croix, cette femme a pris le royaume comme objet de sa prière. Quel désir perdu dans la vision de l'avenir! Ce que le temps cachait, la foi le voyait. Vous connaissez, j'aime bien lire des choses qui nous sortent un peu des commentaires traditionnels. Et j'ai été très frappé par ce commentaire. C'est vrai que cette femme qu'on écarte rapidement pour s'attarder à ce que Jésus dit avec ses disciples, qui était l'objet de la première partie de ce que je vous ai raconté aujourd'hui, on en oublie que cette femme, dans ce que Jésus avait raconté, elle avait entendu aussi que, au-delà de la croix, de la passion, de la mort de Jésus, de l'échec à vue humaine de cette aventure dans laquelle ils étaient embarqués depuis 2-3 ans, on ne sait pas exactement, elle avait vu ce qui allait arriver derrière, ce qui allait arriver ensuite. Il y avait la passion qui arrivait, mais il y avait aussi la gloire à venir. Et ça me ramène à quelques commentaires qu'a fait Nadine tout à l'heure, sur quand on est dans des tempêtes, et là, les disciples, la troupe, ils étaient dans une tempête. Déjà, les choses commençaient à aller de plus en plus mal, et Jésus, en plus, leur annonce que ça ne va pas s'arranger, et qu'ils vont devant des événements terribles. Comment est-ce que nous sommes? Est-ce que nous nous arrêtons à cela? Où est-ce que nous arrivons à voir au-delà? Quand on regarde comment les disciples ont réagi tout au long des 4 évangiles, chaque fois que Jésus leur annonce sa mort et sa résurrection, j'ai cherché un peu, j'ai relevé une dizaine de passages qui disent ça de façon très clairement, soit ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, c'est dans Marc 9, 31 par exemple, il y a clairement Jésus leur annonce sa mort et sa résurrection. Et... Donc je ne sais pas où c'est, j'ai perdu le... Voilà. Jésus disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de le questionner. Ils étaient dans l'embarras. Ou alors ils sont attristés, simplement parce qu'ils ne voient que la mort, la fin de leur aventure. Ils avaient des idées, transformer le monde, renverser la domination des Romains, supprimer les inégalités entre les petits et envers les petits, les fragiles. Tout ça, c'était très bien. Mais ce que Jésus leur annonce, c'est que ce n'est pas du tout ça l'avenir qu'il est en train de préparer. Et même devant le tombeau vide, si vous lisez dans l'évangile de Jean, quand les femmes annoncent que le tombeau, elles ont trouvé le tombeau vide, il y a Pierre et Jean qui courent vers le tombeau pour voir qu'est-ce qu'elles ont raconté, qu'est-ce qui s'est passé. Et on voit qu'ils ont du mal à croire. Hein, Pierre, il met du temps à entrer dans le tombeau et finalement, quand il voit le tombeau qui était vide avec les linges pliés, comme nous le raconte ce texte de l'évangile de Jean au chapitre 20, enfin ils finissent par croire. Et l'évangile nous dit parce que jusque-là, ils n'avaient pas compris ce que Jésus voulait leur dire par la résurrection. Et cette femme, Madame Zébédée, elle a montré qu'elle était prête à se saisir de cette espérance. Certes, il y a des temps difficiles, mais il y aura derrière ce que Jésus annonce, qui est la gloire. Sommes-nous prêts, nous aussi, à nous saisir, et je poursuis ce que disait Nadine tout à l'heure, à nous saisir de l'espérance, hein, la grande vague, là, est-ce qu'on va pouvoir surfer? Moi, je n'irai pas, hein, enfin, bon, c'est un peu grand, à mon avis, comme vague, mais est-ce que le surfeur, quand il commence à s'élancer, ben, il faut bien qu'il croie que, certes, la vague est immense, certes, s'il se casse la figure, ça ne va pas être très bien, mais il faut qu'il croie qu'au bout, il va sortir sous les applaudissements de la foule, si c'est dans un concours. Ou est-ce qu'on va, nous, rester à pointer du doigt ce qui ne va pas et à continuer à marteler tout ce qui ne va pas et à se morfondre et puis à donner des leçons à tous ceux qui voudraient avoir des idées autres? Cette femme avait une espérance, l'espérance de la foi. On a dit tout à l'heure que la peur tue la foi, quelque chose comme ça. L'espérance, au contraire, la fait vivre. L'espérance, c'est de voir plus loin que ce qui nous embarrasse parfois, qui est sans doute moins dramatique que ce que vivait la troupe qui accompagnait Jésus, mais de se saisir de cette vérité. Jésus, il est ressuscité. Si nous sommes là aujourd'hui, en tout cas je l'espère, c'est que nous croyons que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Il est vivant avec nous, il est vivant en nous, il est vivant au travers de nous. Et c'est cela qui fait la raison d'être de l'Église, de notre Église en particulier, mais de toutes les Églises dans le monde. Et si nous n'avons pas cette espérance-là, alors nous ne serons pas armés pour aller dans le monde, pour annoncer l'Évangile d'une part, la vivre, pour combattre les injustices et pour remplir ce rôle de serviteur pour les autres que nous sommes appelés à remplir. Il y a une phrase de saint Augustin sur l'espérance qui est intéressante. Il dit « L'espérance a 2 filles de toute beauté, la colère et le courage. La colère face aux choses telles qu'elles sont, et le courage pour les changer. » Retenez cette phrase, elle est très belle. Elle nous dit comment l'espérance que nous devons avoir, nous pouvons avoir en Jésus-Christ, va nous aider à aller dans le monde et à vivre dans cette attitude de serviteur. Le serviteur, ben, il est au service. Et nous sommes au service de ce monde qui, par bien des côtés, marche de travers ou marche même sur la tête. Et cette espérance, elle doit nous amener bien plus près, bien plus loin que deux places de choix dans le ciel, un à droite et un à gauche du maître. Ce n'est pas seulement ça qui est important, mais elle doit nous animer pour vivre le rôle que Dieu nous demande de vivre. Et la place que nous aurons là-haut, comme le dit Jésus, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire de Dieu, mais ça ne nous regarde pas. Et puis c'est sans doute pas comme ça qu'on peut, s'élancer dans la vie et vivre la vie de tous les jours. Alors voilà quelques commentaires sur la question de Mme Zébédé, que je trouve intéressante, parce que finalement, cette femme, elle avait une vision que n'avaient pas les disciples, qui eux, normalement, étaient pétris de l'enseignement du maître, si j'ose dire. Pensons à nous un petit peu, qui sommes fidèles et à l'écoute de la parole de Dieu. Comment est-ce que cette parole nous met vraiment en mouvement ? Au-delà de ce que nous chantons et disons le dimanche, qui est très bien, je ne rejette pas ça. Mais comment est-ce que le lundi, nous continuons à vivre ces choses-là et à être vus par le monde autour de nous comme porteurs de cette espérance qui va au-delà des difficultés, qui ne les nie pas, qui ne les gomme pas, parce que la vie, notre vie n'est pas plus tranquille que celle des disciples, comme dans les jours, les semaines et les mois qui ont suivi cet échange avec Jésus. Mais est-ce que nous savons conserver cette espérance qui va au-delà ? Alors, suis-je prêt à endosser ce costume de serviteur de mon prochain, à ma place, quelle que soit la place que j'occupe ? Est-ce que j'y suis prêt parce que j'ai compris ce que Jésus disait à ses disciples, que le serviteur peut être amené à souffrir, mais que Dieu a un plan qui va au-delà de ses difficultés ou ses souffrances ? Et puis, cette attitude de serviteur traduit-elle vraiment mon espérance qui est placée en Jésus-Christ, et lui, il l'a vécu jusqu'au bout. Le bout, c'était la croix, mais aussi la résurrection. Dans la fin de son épître, sa première épître aux Corinthiens, vous savez, il y a ce grand chapitre sur l'amour, 1 Corinthiens 13, qui termine en disant « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Alors, Madame Salomé Zébédé, elle avait sans doute la foi, l'espérance, peut-être lui manquait-il un petit peu d'amour pour laisser de côté sa propre considération personnelle et s'occuper de choses un peu plus larges que l'avenir de ses deux fistons. Mais c'est quand même ça qui doit nous orienter. Alors que le Seigneur nous donne d'aller au bout de ce que signifient ces textes tous les jours et que cette vie de service nous permette non pas de voir simplement ce qui ne va pas. Et le monde autour de nous aide bien à voir tout ce qui ne va pas. À longueur de journal sur BFM, on voit ce qui ne va pas. Ça, c'est clair. Non, c'est vrai. Hier, on voyait qu'il y a quelques Alaphilippe est toujours maillot jaune dans la 8e étape du Tour de France. Donc ça va, ça fait plaisir. Mais en général, ce qu'on voit aux informations, ce qui nous inonde la tête, c'est des choses qui ne vont pas ici, ailleurs, dans le monde, qui ne vont pas, en tout cas, d'après les commentaires des journalistes. Et nous sommes appelés à aller plus loin que ça parce que nous avons la foi, l'espérance et l'amour qui nous fait dire que ça, on va le mettre en œuvre dans notre vie de tous les jours. Alors je termine avec ces paroles de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute œuvre et parole qui soit bonne. Amen. Je vous invite à la prière.